On en parle.
La justice est lente, opaque, chère. Alors pour tenter de dépasser ces clichés, nous vous proposons ce matin un vaudrois interactif que nous avons baptisé « Justice, mode d'emploi ». Deux spécialistes vont répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le rôle du juge, de l'avocat, des témoins ou tout autre point lié à l'organisation judiciaire. Vous pouvez continuer à nous joindre tout au long de l'émission. Marianne Corna, vous nous rappelez la marche à suivre ?
Vous avez deux solutions pour nous joindre. Première possibilité, vous écrivez votre question sur le forum juridique dont on parle, onenparle.rsr.ch. Deuxième possibilité, vous envoyez un SMS en tapant OEP, espace, votre message, pas trop long s'il vous plaît. Vous envoyez le tout au 939. Votre question s'affichera directement sur notre forum juridique. Nos deux invités y répondront en direct jusqu'à 9h30. Ils continueront à le faire par écrit sur Internet après l'émission.
Et puis il est peut-être important de le préciser d'emblée, hein, nos invités, et c'est la règle de l'émission, ne donnent pas de conseils juridiques, mais apportent des réponses d'ordre général, réponses qui peuvent intéresser l'ensemble des auditeurs. Alors nos deux spécialistes, je vous les présente. Il y a Muriel Épard. Bonjour. Vous êtes présidente du tribunal cantonal vaudois. Autre invité, Patrick Becker. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes secrétaire adjoint au secrétaire général du pouvoir judiciaire du canton de Genève. Patrick Becker, à Genève, vous avez mené quand même plusieurs enquêtes. La dernière, elle est en cours. Hein. C'est sur les attentes de la population vis-à-vis de la justice. Dites-nous, qu'est-ce qui préoccupe les gens ?
Alors écoutez, donc ces enquêtes sont effectivement ont été menées à la demande de la commission de gestion du pouvoir judiciaire depuis à trois reprises maintenant, en 95, 2001 et 2007. On n'a pas encore les résultats 2007, mais si on se base sur l'enquête 2001, on se rend compte que les justiciables ont différentes attentes, et que les attentes les plus importantes concernent la compétence et la courtoisie des magistrats. Il y a une grande attente sur le temps de parole. Ils ont véritablement envie qu'on leur donne un temps de parole suffisant lors des audiences. Ils ont des attentes assez précises sur la clarté des procès-verbaux et des jugements qui leur sont notifiés. Il y a des attentes aussi relatives à la rapidité des procédures. C'est peut-être pas le critère le plus important, par contre c'est le moins bien noté dans l'enquête 2001. C'était pas le critère qui les inquiétait le plus, mais c'était celui avec lequel ils étaient le plus critiques. Et puis ensuite, ce que vous disiez en introduction, de grandes interrogations sur les démarches qu'il y a lieu de faire, où trouver les informations, la complexité des procédures, à qui s'adresser. Donc une certaine opacité et le coût de la justice inquiète les justiciables.
Alors la justice, on peut y avoir affaire pour de multiples raisons, lors d'un divorce, en cas de litige avec une administration, avec son bailleur, après avoir subi un dommage ou après avoir été victime d'une escroquerie. Comment savoir vers quelle instance se tourner, Muriel Épard ?
La question est difficile à répondre dans l'abstrait. On peut se renseigner, je dirais, auprès des permanences des ordres des avocats qui, dans le canton de Vaud, il y a des permanences dans les villes de Nyon, de Vevey, d'Yverdon et de Lausanne, bien entendu. On peut aussi aller consulter le site de l'État, de la justice vaudoise, l'ordre judiciaire. Je crois qu'il y a un lien par rapport au site de votre émission.
Oui, on a mis toute une série de liens supplémentaires que les auditeurs pourront consulter après l'émission, pendant l'émission.
Il y a aussi, vous pouvez directement aller sur le site de la justice, c'est le site de l'État de Vaud, vd.ch/justice, et vous arrivez sur ce site et il y a des réponses à toutes ces questions.
Au-delà de la question où se renseigner, c'est difficile de savoir parfois à quelle instance, si tout d'un coup on a un problème d'héritage ou un problème de droit du travail, on ne s'adresse pas non plus au même type d'instance.
Là, je crois que c'est la même. Ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est que il n'est pas évident de déterminer très vite quelle est l'instance compétente, et donc il y a lieu de déterminer effectivement ce qu'on entend réclamer, à qui on entend le réclamer, et les instances compétentes le sont soit à raison du lieu, donc il y a des règles qui déterminent quel est le tribunal local compétent, et puis à raison de la matière. Effectivement, dans le même canton, vous pouvez vous adresser à un tribunal différent si c'est un litige de bail, si c'est un litige de droit du travail. Donc là, il y a soit on est capable de le déterminer seul, soit on va avoir besoin d'un conseil en recourant au service d'un avocat, d'un syndicat, d'une organisation patronale, etc.
Il faudrait peut-être expliquer aussi aux auditeurs la différence entre le droit pénal et le droit civil, parce que souvent il y a une confusion.
Alors, il n'y allait pas.
Le droit pénal, c'est le droit qui régit toutes les infractions pénales. Et le droit civil, c'est le droit qui règle les rapports, je dirais, entre particuliers. Les relations, le mariage, les successions, mais dans le droit civil, on devrait dire le droit privé, parce que il y a aussi le droit des obligations, c'est le droit des contrats, c'est le droit des sociétés, c'est le travail, c'est le mandat, c'est le bail, etc. Alors ça, c'est le droit privé. Vous avez le droit administratif aussi, qui régit les relations entre le particulier ou les particuliers et une autorité publique.
Marianne Cornat.
Est-ce qu'il est possible de s'adresser directement au juge et au greffier d'un tribunal pour obtenir des renseignements?
Alors, en principe, non. Chacun a son rôle. Le rôle du juge est de juger, de ne pas donner des renseignements. Surtout pas à une partie, je veux dire, parce que le gros problème du juge, enfin, c'est pas un problème, mais le juge se doit de rester neutre. Un des principes fondamentaux du droit, c'est que les parties doivent être égales devant le juge. Alors c'est clair que si le juge commence à donner des renseignements à une partie, cette égalité risque d'être rompue.
Question de Dany qui se demande quand la nouvelle procédure civile va-t-elle entrer en vigueur. Cela signifie-t-il que tous les cantons auront la même procédure et quels seront les principaux changements? Peut-être succinctement.
Alors, s'agissant de la procédure civile, je crois que tout le monde aimerait savoir quand elle va entrer en vigueur. Malheureusement, le texte lui-même, donc le futur code de procédure civile fédérale, n'a pas encore été adopté par les chambres. Donc, il reste une inconnue. L'objectif poursuivi était que ce code entre en vigueur en 2010, en même temps que le code de procédure pénale. Maintenant, on n'a aucune garantie que ces délais puissent être tenus. Maintenant, s'agissant de la deuxième question, est-ce que les cantons auront désormais la même procédure s'agissant de la procédure civile? Eh bien oui, c'est justement l'objectif poursuivi. Il y a une uniformisation, une seule procédure pour l'ensemble du pays, que ce soit en procédure pénale ou en procédure civile. L'organisation judiciaire reste cantonale, donc l'organisation des cantons, des tribunaux dans les différents cantons, mais la procédure sera la même.
Sur le plan pénal, une auditrice de Genève se demande quels sont les délais pour déposer plainte. Elle nous donne un exemple. Déposer une plainte contre un médecin pour non-assistance à personne en danger.
Alors, le délai de plainte, c'est de 3 mois. Qu'on soit à Genève, qu'on soit dans toute la Suisse.
C'est 3 mois.
Et lorsqu'on découvre une escroquerie financière, demande une auditrice vaudoise, est-ce que le délai est le même?
Alors, le délai est le même, tout à fait. Mais sauf que l'escroquerie financière, comme vous dites, c'est en principe un délit qui se poursuit d'office. Et c'est clair que si vous déposez plainte après les 3 mois, le juge va quand même enquêter. Simplement, vous n'aurez pas la qualité de plaignant, mais vous serez un simple dénonciateur. Et vous n'aurez pas les mêmes droits que le plaignant dans la procédure.
Ce qui veut dire que quand même, pour un délit qui se poursuit sur plainte, c'est 3 mois.
Voilà.
D'accord. La même auditrice se demande pourquoi, après avoir reçu une plainte pénale, le juge met autant de temps, des mois, dit-elle, pour réagir. Pendant ce temps, les personnes soupçonnées continuent à réaliser des infractions bien tranquillement.
Alors ça, je ne peux pas vous répondre. ne connaissons pas le cas, je ne peux pas vous répondre précisément. Ce que je peux dire, c'est que l'absence de réponse du juge ne veut pas dire que le juge ne fait rien. Parce qu'avant peut-être de recontacter cette auditrice pour l'entendre, le juge va procéder à différentes opérations d'instruction. Entendre des parties, requérir des pièces.
Donc il n'a pas forcément un temps pour répondre à cette plainte.
Non. Lise a eu affaire avec la justice. Elle se pose plusieurs questions suite à cette expérience dont elle ne conserve un souvenir cuisant.
Oui, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai été condamnée pour coups et blessures. Mais il n'a été demandé aucune preuve médicale au plaignant. Est-ce toujours ainsi que la justice procède? Comment aurais-je pu demander la production de preuves à mon encontre sans prolonger les recours et frais s'y rapportant? Merci.
Non, moi, je peux vous répondre. Encore une fois, c'est difficile de répondre. Enfin, c'est impossible de répondre dans le cas présent. Le juge n'a pas besoin forcément d'un certificat médical pour apprécier la réalité des faits. Il peut se fonder sur toute une série d'autres indices. Vous pouvez toujours requérir la production d'une pièce, par exemple d'un certificat médical, mais il faut le faire dans le délai qui vous est en général imparti, et il faut le faire par écrit. Le juge est libre après d'y donner suite ou non. Au moment de la procédure de recours, dans la procédure actuelle, c'est trop tard, en tout cas selon les règles de la procédure vaudoise.
Fabrice se pose la question de savoir combien de temps chaque partie dispose pour faire recours lors d'un procès pénal.
Alors, la première chose qu'on peut dire par rapport à cette question, c'est que quand on reçoit une décision judiciaire, quelle qu'elle soit, ça vaut la peine de lire aussi ce qui est après la décision, parce qu'en général, il y a toujours l'indication des voies de recours, l'autorité à laquelle on doit recourir et des délais de recours. Je peux répondre pour le canton de Vaud. Il y a la lecture publique du jugement. À partir de là, la personne a 5 jours pour déposer une déclaration de recours. C'est une déclaration de recours. Il suffit de dire « je déclare recourir contre ce jugement ». Et puis après, elle reçoit un jugement motivé et elle a 10 jours dès la réception de ce jugement pour déposer ce qu'on appelle son mémoire de recours, c'est-à-dire un acte où elle explique ce qu'elle conteste et elle dit ce qu'elle aimerait, ce qu'elle voudrait.
Autre question d'auditeur, est-ce qu'il est possible de choisir son juge ou de changer de juge si le contact passe mal ?
Alors, on ne peut pas choisir son juge si le contact passe mal. Et il y a des règles qui garantissent à la partie d'avoir en face d'elle un juge impartial. Donc, on peut demander la récusation d'un juge dans certaines circonstances, si le juge a un lien relativement étroit avec l'une des parties ou a déjà connu de l'affaire. Bref, il y a différentes dispositions légales qui régissent la récusation. Par contre, on ne peut pas choisir son juge, sauf erreur. L'avis prévoit également la possibilité d'exiger qu'on ait la composition d'un tribunal à laquelle appartient une personne du même sexe que la victime. Mais autrement, on ne choisit pas son juge, non.
Massimo se demande à quelles conditions et par quel biais peut-on inviter la presse à l'audience de jugement au prud'homme. Le but, dit-il, est de donner un retentissement à l'affaire s'agissant d'une procédure qui oppose un employeur milliardaire à un chômeur en quête de reconnaissance du travail fourni en absence d'un contrat écrit.
Ce qu'on peut répondre, c'est que toutes les audiences sont publiques. C'est la garantie aussi que la justice se rend dans les normalement. Donc cette personne peut toujours informer la presse de l'existence de cette audience et évidemment la presse décidera après.
Elle dispose après. Alors Christophe a déposé une question sur les répondeurs téléphoniques dont on parle et cette question concerne le recours à un avocat.
Bonjour, j'ai une question en relation avec une affaire que nous occupons. Nous avons déposé plainte contre un promoteur construisant un bâtiment sur une parcelle voisine de la nôtre. Ce promoteur a procédé à des dépôts de terre et à diverses déprédations sur une clôture et des arbres en limite de propriété. La plainte est en cours d'instruction actuellement et j'ai appris que la partie adverse était en train de mandater un avocat pour cette affaire. Et ma question est la suivante. Est-ce que nous prenons de gros risques à ne pas recourir au service d'un avocat ? Autrement dit, est-ce que cette attitude nous place en situation de faiblesse vis-à-vis du juge et de la partie adverse, notamment dans la perspective d'obtenir un dédommagement financier. Merci d'avance de votre réponse. Au revoir.
Muriel Eppard.
Alors, le recours à un avocat n'est évidemment pas obligatoire. Il peut être nécessaire. Dans le cas que vous décrivez, sans en connaître toutes les incidences, ça me paraîtrait une bonne chose que vous consultiez un avocat. Je dirais que c'est d'autant plus nécessaire lorsque la procédure pénale peut avoir des incidences après, dans le cadre d'un procès civil, et des incidences financières importantes.
Mais de manière plus générale, le recours à un avocat est-il obligatoire lorsqu'on est parti à un procès ? Ça, c'est la question de Jocelyne.
Non, normalement, le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Les parties peuvent se défendre seules. Il y a des circonstances dans les procès pénaux où on peut se voir imposer l'assistance d'un conseil. Mais normalement, non. Par contre, il est souvent opportun de bénéficier des conseils d'un mandataire spécialisé pour pouvoir se défendre correctement.
Mais si je n'ai pas les moyens de me payer un avocat ?
Alors, il y a des mécanismes qui sont prévus. L'assistance judiciaire existe. C'est un droit constitutionnel. Donc, elle peut prendre différentes formes. On peut être dispensé des frais de justice, des avances de frais. On peut se voir financer l'assistance d'un conseil juridique, partiellement, pour des actes limités. Il y a différentes conditions qui peuvent être posées. Une participation financière peut être demandée. Un remboursement des frais pourra par la suite être également demandé, notamment si la personne recouvre une situation financière plus stable. Mais on peut bénéficier de l'assistance judiciaire.
Une question qui vient nous arriver par SMS. Quel est le délai pour un avocat d'établir sa facture après la fin de la procédure ? Bon, là, on vous prend un peu de cours.
Oui, je vous que je ne peux pas répondre à cette question, si ce n'est que le juge taxe les...
Non, le délai, en fait, il n'y a pas de délai, si ce n'est le délai de prescription de sa note qui est de 5 ans.
D'accord.
Voilà, il peut le faire, mais évidemment, plus il met du temps avant de... D'habitude, les avocats envoient leur note
la facture assez rapidement.
Alors là, c'est assez exceptionnel, mais je dirais que le délai de recouvrement, enfin de prescription d'une note d'avocat est de 10 ans.
D'accord. Est-ce qu'il est possible de savoir à l'avance...
5 ans, pardon.
5 ans, oui. Vous l'avez dit, 5 ans. Est-il possible de savoir à l'avance quel sera le coût d'un procès devant un tribunal civil?
Alors, il y a des règlements qui fixent notamment le tarif des greffes hein, dans les différents cantons. Alors, on en discutait tout à l'heure et ces règlements ne sont pas forcément faciles à lire et à comprendre. Vous vouliez intervenir?
Je voulais intervenir pour dire qu'effectivement, au niveau du coût, de la justice, il y a des tarifs qui sont, comme monsieur disait, pas toujours très faciles à comprendre. Mais dans un procès civil, par exemple, souvent... Le plus important des coûts, c'est pas forcément le tarif de la justice, c'est les coûts d'avocat et les coûts d'expertise.
Absolument. On a la question, Marianne, de Joël, question sur le rôle du témoin.
Oui, l'avocat d'un plaignant est-il censé prendre contact avec les témoins de son client afin de les préparer au déroulement du procès, aux questions de la partie adverse, leur expliquer en gros les enjeux du procès, ou au contraire, cela ne se fait pas, ou est-ce même interdit pour un avocat de contacter préalablement les témoins?
Un avocat ne doit pas contacter préalablement ses témoins.
Pourquoi?
Parce que le témoin est censé arriver et répondre de manière objective aux questions, si on l'a déjà chauffé pour qu'il réponde dans un sens ou dans un autre.
On peut peut-être lui expliquer le fonctionnement à ce témoin, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'être témoin et qu'il peut y avoir une grande trouille.
C'est vrai que dans les enquêtes de satisfaction, les justiciables ou les personnes qui avaient été consultées étaient notamment des personnes qui étaient intervenues comme témoins dans des procédures et qui disaient leur désarroi sur la manière dont ça s'était passé. Alors, on a des brochures qui ont été établies maintenant et qui expliquent un petit peu quels sont les droits et obligations des témoins. Mais c'est vrai qu'ils sont cités souvent par une des parties. Maintenant, ils n'ont pas à être préparés par cette partie, puisque l'idée est que le juge puisse se fonder notamment sur ce qu'ils vont dire pour prendre une décision. Donc, ils n'ont pas à être orientés.
Alors, un témoin qui est appelé tout d'un coup à témoigner dans une affaire dont il ne sait même pas la teneur, qu'est-ce qu'il doit faire?
Alors, si vraiment, d'abord, il a des questions sur la manière dont ça va se dérouler, il peut prendre contact avec le tribunal, avec le greffe, en demandant quels sont ses droits, quelles sont ses obligations et la manière dont ça va se passer. Et ce qui est sûr, c'est qu'il doit comparaître. Hein. La personne qui est convoquée comme témoin doit absolument comparaître. Autre est la question de savoir ensuite si elle a l'obligation de déposer. Il se peut qu'elle ait certaines obligations contractuelles ou légales qui font qu'elle ne devrait pas se prononcer sur certains faits, secret professionnel, secret de fonction, et qu'elles doivent d'abord demander la levée de ce secret avant de pouvoir s'exprimer. Néanmoins, elle doit comparaître.
Je reviens aux plaintes, hein, on en parlait tout à l'heure, mais là, il y a une question qui vient d'arriver sur le forum juridique de l'émission. Bonjour, j'ai tenté à plusieurs reprises de déposer plainte au poste de police principale. On m'a répondu à chaque fois que la plainte devait être déposée par écrit. Selon un juriste consulté, toute plainte peut être déposée oralement. Alors, qu'en est-il exactement ? Muriel Épart, peut-être.
Alors, je peux vous dire comment ça se passe dans le canton de Vaud. Effectivement, si c'est une plainte dans le canton de Vaud, on peut se rendre au poste de police pour déposer plainte.
Et on doit être entendu.
Et on doit être entendu. Le policier de service, il y a des fiches toutes préparées, prendra note de la plainte et des faits.
J'imagine que c'est comme ça dans les autres cantons aussi.
C'est-à-dire que la plainte devient écrite, du coup, puisqu'elle est effectivement formalisée par l'agent de police et signée par la personne. Ce qui est important, c'est qu'elle soit signée par la personne.
Mais ça veut dire qu'on ne doit pas forcément faire référence à l'article de loi dans la plainte.
Non, vous n'avez pas à qualifier juridiquement l'infraction que vous dénoncez ou dont vous estimez qu'elle a été commise à votre encontre.
On a d'autres questions qui nous sont parvenues, Marianne.
Alors, on a encore des questions qui ne portent pas directement sur l'organisation judiciaire, hein, mais qui relèvent de problèmes plus concrets. Natacha demande, suite à la réception de menaces et d'injures sur mon téléphone portable, j'ai déposé une plainte pénale contre l'expéditeur. Bien que le ministère public ait réclamé une peine, le juge ne l'a pas suivi. L'expéditeur a été totalement innocenté. Existe-t-il une jurisprudence quant à ce type de SMS en Suisse ?
Alors là encore, on ne peut pas répondre pour le cas particulier, pourquoi l'expéditeur a été innocenté dans ce cas-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les plaintes ou injures par SMS sont punissables pénalement comme toute injure ou menace proférée par quelqu'un à l'encontre d'une autre personne.
Donc dans un autre cas, la personne coupable aurait pu être condamnée.
Tout à fait.
Peut-être, d'accord.
Encore faudrait-il connaître la teneur des injures et des menaces pour savoir si...
On arrive déjà au terme de cette émission. Peut-être pour terminer, quel conseil donner à nos auditeurs lorsqu'on a affaire avec la justice ? Patrick Becker.
Alors moi, j'y ai réfléchi puisqu'on m'a demandé de réfléchir à cette question. J'en aurais deux. Le recours au juge devrait être... Ça ne devrait pas être le premier réflexe de la personne qui est en litige. Elle devrait se dire qu'il y a d'autres modes de règlement des litiges, essayer de chercher des modes alternatifs, la médiation, essayer de trouver des tiers susceptibles d'arranger les choses. Et puis une fois qu'on se lance dans un procès, alors il faut se préparer. On ne dépose pas une demande à la va-vite sans les documents qui permettent au juge ensuite de se faire une idée. On collabore, on va chercher son courrier. On a énormément de procédures qui sont ralenties par le simple fait que les gens, certes, ont déposé une demande, mais ensuite ne veillent pas à aller chercher leur courrier, les convocations. Il y a des ordonnances préparatoires qui arrivent, le juge cherche à obtenir des documents. Il faut vraiment collaborer, être consciencieux. Je pense qu'une bonne partie de la rapidité de la procédure dépend aussi de la diligence de la personne qui a demandé l'intervention de la justice.
Muriel Épart.
Alors moi, j'aurais un conseil un petit peu différent. Effectivement, le procès ne doit pas être le premier réflexe, mais il faut quand même se renseigner très rapidement. Prendre contact très rapidement avec un avocat si l'affaire est complexe, parce que on l'a évoqué, il y a des questions de prescription de l'action qui peuvent se poser, et il serait très très dommage qu'au moment où on est décidé à faire le procès, on vous dise mais fini, c'est prescrit. Donc se renseigner quand même rapidement et ne pas laisser les choses traîner. En plus de ça, il y a des questions de preuves. C'est toujours plus facile d'administrer des preuves quand le litige ou l'affaire est récente que si on agit des années plus tard.
Vous restez avec nous en tout cas, pas à l'antenne, hein, mais en dehors de l'émission sur le forum juridique. Les auditeurs peuvent continuer à envoyer leurs questions et vous restez avec nous encore quelques minutes pour répondre donc aux questions de ces auditeurs. Je vous remercie Muriel Épart d'être venue jusqu'à nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente du tribunal cantonal vaudois, présent également ce matin. Patrick Becker, secrétaire adjoint au secrétaire général du pouvoir judiciaire du canton de Genève. Je vous souhaite à vous deux une très bonne journée.
Merci à vous.
Merci.
Radio Suisse Romande, la première, on en parle sur rsr.ch.